Ce soir, je propose à parler de quelque chose. C'est intéressant de dire ça avant que je commence. Le message et le culte de mercredi passé, c'était vraiment loin, vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était touchant parce que Mensa, on connaît Mensa, le monsieur togolais qui est à Zurich, il habite là-bas, m'a contacté jeudi après le culte et il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux donner le titre de ce livre de Nabal Qureshi? Parce qu'on a parlé de Nabal Qureshi, on a parlé de le concept d'une exception, d'être exclu de la communion de Dieu, la vie de Dieu. Pas notre propre désir, ça veut dire non-croyant. Et on a parlé d'un rêve de Nabal Qureshi. Le livre s'appelle « En recherchant Allah, j'ai trouvé Jésus ». Et il a dit « Je vraiment voudrais avoir plus d'informations de la vie de cet homme, donc j'ai donné le titre ». Mais c'est étonnant qu'il a écouté ça tout de suite après parce que c'était mis sur le site. Et après ça, il veut avoir plus d'informations parce qu'il était touché par le message aussi. Donc, je pense des fois, pour un pasteur, on peut être un peu... avec un message, on prêche beaucoup de messages. Donc, l'habitude de prêcher le message, des fois, on peut dire, oui, c'était un bon message, des fois, c'était pas un bon message. Mais on ne réalise pas l'importance de servir le corps de Christ avec la parole de Dieu et le fait dans nos cœurs. Et de pas avoir, pour moi, c'est important de ne pas négliger ça, de ne pas mépriser ça, c'est un mot trop fort, mais plutôt d'avoir un respect pour la parole de Dieu et dire, OK, peut-être ce message va transformer la vie de quelqu'un. Et ça, c'est bien pour nous tous d'avoir cette même attitude, d'avoir une attente que la parole de Dieu peut vraiment faire quelque chose. Parce que c'est comme une épée double tranchant qui peut faire la division entre l'âme, la séparation de l'âme et l'esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose ordinaire, c'est quelque chose de puissant. Ce soir, on va parler d'un sujet, et Marc a brièvement mentionné quelque chose de son travail. Et... tout de suite, je pense à le fait que nous sommes dans une guerre spirituelle et l'importance de réaliser qu'on est dans un monde visible, mais il y a un monde aussi spirituel caché et nous avons le diable qui est contre nous. Et ce soir, je propose à lire un verset pour débuter. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et cette dernière phrase, partie B de cette verset, de combattre un bon combat. Et on peut dire, quel est un bon combat? Quel est le bon combat pour nous? Quelle est l'importance? Et on peut lutter dans un mauvais combat. On peut avoir le mauvais équipement, mauvaise arme. En fait, on peut avoir une confusion. On pense l'ennemi est l'ennemi et l'ennemi n'est pas. Je peux être dans une lutte avec ma femme. Ce n'est pas vrai, mais imaginons que c'est possible qu'on dispute entre nous deux. Et en fait, ce n'est pas une dispute parce qu'on n'est pas dans une bataille avec la chair et sans, mais nous sommes avec un ennemi spirituel qui est caché. Et juste pour commencer ça avec un exemple de mauvais combat, motivé par une frustration de l'injustice dans ce monde, motivé par une haine pour le péché et de l'iniquité qu'on voit dans le monde, un chrétien peut commencer à être plus négatif contre les effets de la nature de chuter que d'avoir un amour pour les pécheurs. Il faut séparer ça. On a une haine pour les péchés, mais nous avons un amour pour les pécheurs parce qu'on est pécheurs sauvés par la grâce. Donc, on était dans le même camp avant. et on pêche aussi, donc c'est toujours le cas. Donc on peut avoir une identification avec les gens. Et tout de suite, je termine cette parenthèse de dire, on va ce soir voir un exemple, le bon combat. Et la première chose, on va commencer avec 1 Samuel chapitre 17, et nous avons bien sûr lu ce passage, le fameux chapitre qui parle de David et le combat avec Goliath. Et voilà, on ne va pas lire le chapitre entier, mais juste de savoir certaines choses de ce chapitre, je vais ouvrir ma Bible ici de voir, c'est bien d'avoir ça sur mes yeux. 1 Samuel chapitre 17. Donc, la bataille, c'est un combat entre Goliath et David. Donc, imaginons que nous sommes là. Imaginons que c'est nous dans l'armée israélite. Nous sommes des soldats et nous avons, juste pour se mettre en scène, afin que nous avons cette illustration, nous avons une vallée, la vallée de Ela, la vallée de Teraba, en fait, les chênes, les arbres. Et nous avons deux montagnes. Donc, la vallée Ela, nous avons une colline, ou probablement une montagne. Il dit montagne dans la Bible, mais ce n'est pas une montagne pour les Suisses, c'est une colline. On est sur une colline avec un ennemi opposé, l'armée opposée, qui est dans un ordre de bataille. Donc, ils sont tous là avec les épées, les boucliers et les javelins aussi. Les javelins? Javelot. Donc, ils sont tous là. Nous avons Saul, nous avons Jonathan, son fils, nous avons David, les frères de David, en fait, qui sont assez costauds. Donc, il arrive pour la bataille, mais il n'est pas une bataille. Il est une confrontation. Pour 40 jours, une confrontation. Mais de l'autre côté, les Philistins qui sont dans un ordre aussi, nous avons Goliath. Goliath, le champion, qui descend. Goliath est probablement 10 feet tall, 10 feet, je ne sais pas, c'est 3 mètres, près de 3 mètres de hauteur, de taille. Assez costaud, il a un javelot avec une tête qui pèse probablement, est-ce que j'ai calculé, 6 kilos. Donc, voir le lourd probablement de le total de le javelot. Il a un vêtement d'armes, en fait c'était bronze, c'était le l'arène, et en fait c'est métal, airain, donc c'est solide, c'est probablement, je vais faire une calculation, je vais juste vite voir si j'ai noté, c'est assez lourd. Si je calcule bien, c'était plus de 60 kilos. Donc, 60 kilos, plus ça, un javelot, plus il a une épée, et bien sûr, il a un homme avec lui qui apporte le bouclier. 40 jours, matin et soir, pendant le temps qu'il a fait moins chaud. Il a fait moins chaud en Israël. Donc, là-bas, proche de Jérusalem aussi, et nous avons Goliath en train de crier haute voix avec une attitude de défier les Israélites, de moquer. Et c'est 40 jours. Et le premier point de parler de ce combat, de combattre le bon combat, David arrive après 40 jours. Et on peut dire, quel gaspillage de temps. 40 jours dans une vallée, chaque jour de se lever, de mettre tout l'équipement, toutes les armes, d'être en position, d'être en face de l'ennemi. De faire ça 40 jours, pas de bataille, pas de lutte, parce que personne fait. En fait, personne ne bouge. C'était juste en formation. Et de plus en plus, les soldats israélites sont plus craintif, de plus en plus anxieux, de plus en plus peureux, on peut dire ça, peureux, plus de peur. En fait, ils sont presque, je cherche pour le mot, bloqués avec la peur. Et, mais Seigneur, tu es où dans cette situation? Cet homme arrogant, moque Dieu, parce qu'il est en train de moquer Dieu. Il n'est pas en train de moquer juste les soldats. Ni Saul, il est en train de moquer Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Silence, rien ne passe. En même temps, David est en train de travailler, garder les brebis, faire les petites tâches pour son frère. Mais il n'était pas là. Et les frères de David ici aussi. Il faut savoir, 40 jours, 40e jour, le jugement pour Goliath et pour les Philistins. Ça semble pour nous que Dieu est lent d'arriver, mais il n'est pas. Il est comme un bon Suisse. Il est toujours à l'heure. C'est une blague, mais il est toujours à l'heure, notre Dieu. Ce n'est pas par hasard que David a été amené par Dieu dans cette bataille. Ce n'était pas par hasard. Donc Dieu est si long. Mais chaque fois que Goliath moque, Goliath défie, Goliath dit des choses, haute voix, intimidant, grande, et chaque fois qu'il fait ces choses, Dieu écoute et dit, ok, un jour, moi, tic, 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 voilà, tu vas mourir, Goliath. Donc, il prépare, comme avec Pharaon, il prépare des choses pour la destruction de les ennemis. Il faut savoir quelque chose de plus, parce qu'on voit dans ce texte, juste les Philistins, Goliath, Saul, David, les soldats. On ne voit pas la réalité qu'il y a des armées démoniques cachées, mais là, là-bas. Derrière, qui anime avec un esprit malin? Goliath. Qui était derrière de lui? Et en plus de savoir, Goliath n'était pas innocent. Il a accepté, il était motivé, il était animé par un esprit démonique. De moquer Dieu comme ça, d'avoir une puissance, d'être partie d'un peuple idolâtre, de vraiment vivre dans cette ambiance démoniaque, il était connecté. Et probablement parce qu'il est une idolâtrie. Derrière les idoles, il y a toujours les démons. Toujours. Ils cherchent pour avoir une puissance. Et donc, d'arriver, pour Israël d'arriver en Canaan, on voit en Joshua. Ce n'était pas juste contre la chair et le sang. C'était contre les démons. Mais il faut savoir que ce n'était pas possible pour Israël d'entrer dans le pays si Dieu n'était pas avec eux. Ça va être un massacre. Et donc, c'était le bon moment pour Israël d'entrer avec Joshua. Et c'était le bon moment maintenant pour David arriver. Il va arriver et on va avoir un jugement sur le Philistin. Cet homme était très bien équipé, très bien protégé, très bien enseigné et il a appris de combattre. Il est tous. Combien de... On peut avoir une image de ça quand on voit la puissance dans ce monde. On voit la puissance, on voit la façon que l'homme cherche son propre gloire. Il dit, voilà, on est comme ça. Imaginons une entreprise. Une entreprise... Américain, une entreprise britannique, une entreprise française, oh, ce n'est pas important, la nation. Mais imagine l'arrogance, imagine la puissance, imagine le fait que c'est eux qui contrôlent. c'est eux qui disent qu'il faut faire. Et quelqu'un qui travaille pour eux est sous la pression, sous le stress. Et cette voix continue de dire les choses. On va faire comme ça, il faut accepter. Mais un jour, le timing de Dieu, ça va finir. Et Goliath, livré, voilà, on est des enfants dans la salle, donc on ne va pas dire, mais il était mort. C'était fini, c'est la fin après ça. Donc, on pense que Dieu est aveugle des fois, et les hommes moquent Dieu. Les hommes moquent Dieu, il ne va jamais retourner, on n'a jamais vu des indicateurs. Quel est ce Dieu qui a créé le monde, qui va retourner pour chercher son peuple? Les moqueurs toujours, mais un jour le timing de Dieu, le bon timing de Dieu, ça va finir comme ça. Donc nous sommes dans le bon camp. C'est pas pour dire que nous sommes arrogants et qu'on pense qu'on est mieux que les autres. On n'est pas. On était rachetés de cette royaume de ténèbres. Mais il faut accepter un jour les moqueurs. C'est fini. Les bouches fermées. Louis Christ glorifie va retourner et tous les genoux fléchent vers Louis. C'est fini. Donc, ne prends pas ces choses personnellement. On ne va pas prendre les accusations personnellement. Chaque fois que Dieu est accusé, et c'est une accusation, c'est comme quelqu'un en train de faire ça dans l'œil de Dieu. Le prunelle est la partie la plus précieuse. C'est la partie noire, c'est la partie sensible. Mais nous sommes le prunelle de Dieu. Et Israël est le prunelle de Dieu. Et chaque fois que quelque chose était accusé, cette personne est en train de l'œil de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Quand on touche le prunelle de Dieu, c'est tellement sérieux. Et si quelqu'un attaque l'Église, il touche le prunelle de Dieu parce que nous sommes le bien-aimé de Dieu. Et si quelqu'un attaque les Juifs, le peuple de Dieu avec un héritage bientôt va retourner, Christ va retourner et Israël va être rétabli. Une nation de vrais Juifs, en fait, ceux qui vraiment croient. Ça va être le prunelle de Dieu aussi. Le Holocauste, le Shoah. Prunelle de l'œil de Dieu, en fait. C'est pas quelque chose, on ne joue pas avec ces choses. Dieu est tellement sérieux. Donc, la première chose, le timing de Dieu, il y a un timing de Dieu. On est dans la bataille avec lui. Et quand c'est le bon moment, on y va avec lui. Et David était amené. C'était pas le feu qui descend comme avec Élie. Non. C'est un homme qui a été utilisé pour tuer l'ennemi de Dieu. Un homme physiquement pour humilier un petit garçon. Il était jeune. Et lui, utilisé pour humilier les Philistins, pour humilier un homme de 3 mètres. Fort, costaud. Wow. Donc, le timing de Dieu, le bon moment. La deuxième chose, je notais, en verset 28, opposition et distraction. Opposition et distraction. Souvent, c'est les gens les plus proches de nous qui peuvent être l'opposition et les distractions. Parce que qu'est-ce qui va passer ici? En bref, David arrive, il voit tout ce qui est en train de passer, il voit que les soldats valiants sont fermés avec la peur, en fait, paralysés. Donc, David arrive avec un esprit pour ranimer les esprits. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Ramène l'esprit en toi, ranime les dons que tu as reçus, Timothée, parce que tu as reçu des dons par l'imposition des mains. Ranime anazoporeo. Encore la feu de Dieu. Encore la feu de Dieu. Commence à provoquer, commence à animer, commence à... Et David est en train de faire ça avec les hommes de Dieu. En train de dire, quelle est la récompense que le roi va donner si quelqu'un tue cet philistin encirconcé, cet ennemi de Dieu qui moque Dieu, et il parle avec certains soldats. Et lui, il faut savoir qu'il est arrivé ici juste pour amener les pains et les fromages. C'est intéressant. Il a amené 10 pains, 10 fromages, et je crois qu'il y a aussi le froment qui était le grain rôti, en fait. Donc, il était là juste pour une distribution de sandwich, en bref, pour donner quelque chose à manger. Et c'est son père qui a demandé à lui de partir. Ce n'était pas son désir propre de « Oh, je vais voir la bataille, qu'est-ce que va passer ?» Non, c'est Jesse qui a dit « Il faut aller là-bas. » Il a dit « Ok, je suis disponible, je vais le faire. On va parler de ça prochainement. » En bref, son propre fils a accusé. Eliab a dit, dans le verset, il a dit « Écoute, tu es orgueilleux, tu es parti de voir, de garder ces petits troupeaux de brebis. » Comme il a mépris le fait que d'être un berger est important, et c'est des brebis de son père, en fait. Donc, il a une certaine responsabilité. Son père, il n'était pas riche. Jesse n'était pas riche. Donc, de garder juste quelques brebis, c'est important. Il était fidèle dans les petites choses. Et il était amené, et Eliab a accusé. Il a dit à... Pourquoi que tu es là? Je vois que tu es méchant. Je vois que tu es orgueilleux. Et donc, David, imagine ça. Si quelqu'un nous accuse de quelque chose qui est totalement faux, on est vraiment indigne. On est vraiment en colère, peut-être, des fois. Et en bref, peut-être souvent, c'est les gens qui nous accusent de quelque chose qui sont eux-mêmes coupables. Ils sont fautifs dans cette même valeur. Mais c'est intéressant de voir comment ils transfèrent cette accusation de eux-mêmes, en fait. Ils sont coupables de ça. Ils transfèrent vers nous. Donc, tout de suite, c'est une attaque. Mais est-ce que c'est Eliab? Non, c'était plus de Eliab. C'est le diable. Et on n'est pas en train de dire le diable est partout en train de cacher. On n'est pas paranoïque. Ce n'est pas le cas de ça, c'est simplement de discerner qu'il y a un esprit derrière de ça. Pourquoi? Parce que David est en train d'encourager les hommes. Parce que qu'est-ce qui va passer après la finie avec Goliath? Les Israélites vont chasser les Philistins, l'armée philistine. Donc il faut savoir qu'il faut être prêt pour ça. Il ne va pas rester comme ça. Après Goliath est mort, ils sont comme ça. Donc il encourage les gens. Un fils de consolation. On était encouragé. Paul était encouragé par quand Tite est venu. Il était consolé, encouragé. On a besoin de quelqu'un qui peut nous encourager. Et bien sûr, dans cette situation, quelle est la chose qu'il faut faire premièrement? Encourager les hommes. Encourager. C'est un ministère. David arrivait. Il est là juste avec les sandwichs. Pas plus que ça, il peut dire. Oh. Bonne chance, je vais partir avec de voir mon père. Est-ce que le chose passe bien? Il faut que je transmette un message de vos parents. Mais non, il a resté, il a dit, écoute, il a entendu les paroles de Goliath en train de crier. Il arrive le matin, il voit Goliath. Il dit, c'est qui cet homme? Non. Oh, wow, il a dit, qu'est-ce que se passe ici? Cet homme, cet philistin, il défie les armées de le Dieu vivant. Je ne sais pas, je ne peux pas arriver avec un mot pour utiliser ça, mais c'est ridicule. Il va mourir. Et donc, il commence à encourager les gens. Et bien sûr, Eliab utilisé pour une distraction. Distraction démoniaque. Distraction. Combien de distractions démoniques que nous avons? Et des fois, c'est nos proches. Des fois, c'est des ennemis. C'est des fois, on est juste nous-mêmes. C'est pas nous. C'est simplement nous sommes des fois utilisés par le malin pour une distraction de quelqu'un d'autre. Je peux être une distraction pour quelqu'un d'autre. C'est facile. Soyons pas paranoïques ou, conscients de soi. Non, c'est un fait. Des fois, je peux dire quelque chose et ma femme est en train d'étudier. Je peux dire, ah, voilà, je rentrais dans le bureau un peu bruyant et elle dit quelque chose à complètement à côté. Elle est distraite de le fil d'étudier. C'est normal. Il faut savoir, on n'est pas, voilà, est-ce que le diable est en train de me l'utiliser? Non. C'est des fois, on est sur la terre, le diable cherche pour faire ça. Il a utilisé Pierre contre Jésus, n'est-ce pas? Donc, il peut certainement nous utiliser aussi. Il faut savoir si c'est le cas. Mais David n'était pas distrait. Il a dit, OK, Eliab, mais qu'est-ce que je dis? Tourne le dos et continue avec les autres. Il parle avec les autres. Un courage. Qu'est-ce qu'on va faire contre cet homme? Et plus qu'il dit ça, Saul, il a entendu, ah, OK, je vais amener vers moi, on va écouter ce que cet homme dit. Donc, David était là pour vraiment ranimer les esprits, de dire, voilà, et nous avons besoin dans notre église d'être ranimés. Et lui, il n'était pas, oh, le pauvre Goliath, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelle victime. Non, il va mourir. Il ose d'accuser nous, il ose d'accuser le Dieu du Tout-Puissant. Et on peut être en colère. Et on peut avoir, Pasteur Charles, dimanche matin, 11h, le culte de 11h, il est en train de prêcher. Lui, il finit le message, ouf, comme ça, avec le feu. Je suis en colère. C'était pas à part, à côté. C'était dans le fil de le message qu'il était. Écoute, pourquoi on laisse les bêtises comme ça passer dans notre monde? On ne va pas laisser les gens de faire ça. Il faut savoir, il y a un moment d'avoir une haine contre ces choses. Il y a un moment d'être en colère, sainte colère, pas colère de soi-même. On ne vit pas dans ça. Mais il y a un moment où on va dire, écoute, si on aime Dieu et on aime la justice, on est en colère contre les choses indignes, les choses de la ténèbre. Et c'est bien. On n'est pas, oh, le pauvre, on aime tous l'amour. Non. Voilà, je sors un peu de la file de le message. Mais en bref, deuxième point, opposition. Et il était en colère. Il a dit, on va ranimer les esprits, on va continuer. Troisième point. Disponible pour aider. Et je vais brièvement passer par ça, je vois le temps. Disponible avec humilité. J'ai déjà parlé de ça. Jean-Marc, amène Jean-Marc, Paul, en train de parler avec Timothée, 2 Timothée chapitre 4. Amène Marc parce qu'il est facilement utilisé. Facilement utilisé parce qu'il n'est pas quelqu'un qui dit, OK, nous avons une illustration. Quelqu'un arrive dans un hôtel, il dit, j'ai besoin d'une serviette. J'ai besoin de plus de serviettes, je veux trois serviettes pour moi. Et le lit, je veux un lit plus. On est tellement obsessé avec la vie de moi-même. Ça veut dire, je veux que les choses soient exactement ça et le crémière doit être coupé dans ce côté et quelqu'un arrive et nous avons l'assiette de cette position et que ma chemise doit être repasser tellement comme ça. Après, quand je rentre à la maison, les chaussures doivent être positionnées en ligne comme ça. C'est pas qu'on n'est pas propre, c'est quelqu'un qui est tellement obsédé. Voilà, je dois avoir ça. Non. Dieu cherche pour les gens qui peuvent. OK, c'est pas si important que ça. J'aime de marcher avec Dieu et je ne peux pas voir toutes les choses dans la même ligne comme ça. Et il était disponible. Il n'était pas exigeant. Il était humble. Il était disponible. Il était progressivement brisé par la vie avec Dieu. Donc lui, sa vie était plutôt une relation avec lui, avec Dieu lui-même. David, humble. Il peut servir. Pourquoi qu'il était choisi d'être roi? Parce qu'il était déjà en train d'être formé, parce qu'il était déjà un berger. Parce que Dieu cherche un berger. Dieu toujours cherche les bergers. Dieu cherche les gens qui sont humbles. Les hommes et les femmes qui peuvent accepter volonté de mettre partir la vie et juste de marcher avec lui dans la simplicité. Et on est en train d'être simplifié dans notre vie. C'était facile pour David, juste les brebis là. Et je vais retourner, je vais amener les sandwichs et après ça, je retourne. C'est simple. Et il peut être utilisé parce qu'il a une confiance qu'il peut arriver de finir le travail que Dieu a demandé. Il a fini le travail que son père demandait avec humilité. Il n'a pas dit, oh, père, pourquoi que je dois aller aujourd'hui, hein? Mais je planifie de faire ça, ça. Non. Ok, père, merci, je vais aller. Simplement de faire ça. Et son humilité est exprimée parce qu'il est soumis de l'autorité de Dieu aussi. Ça veut dire son père, ça veut dire son roi, et son roi était honnêtement à côté de la plaque. Saul va être progressivement à côté de la plaque, si tu peux utiliser l'expression. Mais David a accepté d'être soumis, pas d'être utile pour être un tapis. Qu'est-ce qu'on dit? On marche un tapis comme nous avons. Non, non, il n'est pas un paillasson. Il n'est pas un paillasson. Des fois, oui, mais il est là pour servir le Seigneur. Des fois, il dit non. Je ne veux pas être ça pour le cible par Saul. Chaque fois, c'est un javelot. Il va lancer vers lui, mais paraître haut. Non, il est parti. Donc, voir un homme avec sa tête attachée et aussi les pieds, humble et disponible. Dieu cherche les gens disponibles, pas les gens doués. Il cherche pour les gens qui peuvent être humbles, et ça veut dire enseignés par Dieu. Et après ça, les dons viennent manifester. Mais il cherche les gens humbles. Ce n'est pas le rocket science, ce n'est pas la science de fusion. C'est vraiment simple. Et le quatrième point, respect pour l'autorité, on a déjà parlé de ça. Mais amener à Saul, ce n'était pas une question, Saul, j'y vais aller. Ou pas, quand il a vu Goliath, il dit, OK, on y va, on va le faire. Mais quelqu'un peut dire, mais est-ce que c'est bien de parler avec le roi? Avant que tu décides de faire quelque chose toi-même. Non, il a dit, il a laissé l'ordre de ces choses de passer. Lui, premièrement, c'est d'encourager les autres. Deuxièmement, c'est il a été amené à Saul et il a dit, ne quitte pas, roi, cet Philistin va mourir et moi, je vais occuper avec ça. Il était disponible pour faire ce que le Seigneur a demandé. Et c'était simplement ça. Donc, respect pour l'autorité, parler avec Saul, il a répondu avec respect aussi. Quand Saul a dit, mais fais attention, prends tous mes armes, tout mon équipement, il a dit, OK, je vais essayer, mais imagine un jeune comme ça avec un casque énorme comme ça et presque pas bouger, la chemise de chêne en train de descendre probablement vers ça, donc il ne peut pas vraiment faire beaucoup de choses. Il a dit non. Mais un respect, il est utilisé par Dieu parce qu'il était soumis. Et en plus, il était soumis à Dieu lui-même, pas juste le roi. Si le roi est à côté, il était toujours soumis à Dieu. Si le roi n'était pas soumis lui-même. Donc, c'est de marcher cette file de voir que des fois on est dans un monde injuste, avec les chefs injustes, avec une vie qui peut être injuste. Et nous sommes autour des personnalités qui nous accusent en plus. Et nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Et il a dit juste marche simplement avec moi. Suis-moi et je vais te conduire vers le plan que j'ai préparé pour toi qui va toucher tous les autres. Parce que le plan pour David n'était pas pour son propre gloire. Ça, c'est pour la délivrance d'Israël. Nos vies touchent les autres. Nos vies touchent les vies des autres. On n'est pas une vie en isolation. Quand nous sommes touchés par Dieu, on peut toucher les autres. On touche Dieu, il nous touche. On touche les autres. Vertical, horizontal. Prochain point, provoquer et indigne. Je pense que je dois toucher ça. Irriter. Pas de voir un homme orgueilleux en train de crier et moquer Dieu. Et j'ai déjà touché ce point, donc je vais passer suivant de le prochain point. Ça, c'est important. Sixième point, les bonnes armes de Dieu. versets 38 à 39. Est-ce que c'est la question de porter toute l'armure, toutes les armes de Saül et d'essayer de bouger avec un grand problème parce que c'est trop lourd pour moi? Je ne peux presque pas bouger, donc comment je peux lutter avec ça? Il faut avoir les bonnes armes. C'est, en Éphésiens chapitre 6, verset 13, les armes de Dieu ne sont pas... Il faut prendre les armes de Dieu. Et je crois que... Je vais regarder le verset juste pour être sûr. Éphésiens chapitre 6, 13. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, c'est des armes de Dieu, pas notre propre âme. Afin de pouvoir de tenir ferme contre les ruses du diable. Ah, c'est important, hein? Particulièrement en ce moment. Les ruses du diable. Oui, je sais que j'ai déjà fait ça. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce que Dieu donne est tellement puissant. Ce qu'on pense que nous pouvons utiliser, c'est juste blesser quelqu'un d'autre. Dans cette illustration, on est dans une bataille physique. David contre Goliath. Mais c'était disproportionnel parce que Goliath, 3 mètres, David, je ne sais pas combien de mètres, est plus maigre probablement et un jeune. Mais qu'est-ce qu'il a? Quelque chose pour... quel est le mot? Je pense que j'ai noté. Un front avec 5 pieds, c'est tout. 5 pieds, pas plus. Donc, mais tout ce, il faut savoir, premièrement la parole, il a confessé. Il a confessé. Goliath a dit, voilà, je vais tuer dans l'île. Il a juré le nom, avec les noms de Dieu. Petit D minuscule. Et lui en train de moquer David. Et David dit, écoute, je viens dans le nom de le Dieu l'éternel, vivant, dans le nom de Dieu. Nom implique le caractère et nature. Psaume 20, verset 6. Certains font confiance dans les chariots, certains dans les chevaux. Mais moi, nous, fais confiance et on rappelle le nom de notre Dieu. Application. Les gens peuvent être dans un... OK, une illustration. Tout est en train d'aller à... Je ne sais pas quoi, c'était le chaos dans un bureau. Beaucoup de choses qui sont en train de passer. Moi, je sortais de mon bureau, le Seigneur dit pas. Je suis parti, je pense, mais c'est dingue, pourquoi faire ça pendant la journée? Nous avons beaucoup de choses à gérer. Juste quelques minutes. J'étais dans un bureau, pas loin d'ici, à Palantir, en fait, c'est toujours là-bas. Et dans le bureau, c'était dans deux bâtiments construits avec un connecteur entre les deux, avec un tunnel, en fait, avec un couloir connecté. Et pendant une certaine période, ils sont en train de vendre partie, ou essayer de vendre partie du bâtiment, donc ils ont vidé. Ça veut dire qu'il y a des bureaux vides complètement, personne. J'étais en train de travailler, je peux sortir et partir dans un autre bureau complètement vide pour prier. Donc, pendant tout ce qui est en train de passer, je peux parler à vous, essayer de régler les problèmes, ou je peux, comme le Seigneur demande, sortir et prendre 2 minutes avec lui en prière. Et après, quand je retourne, je suis plus fortifié, vivifié et prêt pour la bataille. Des fois, parce que ses voix sont plus hautes que nos voix, des fois, le Seigneur peut dire, écoute, oui, ce n'est pas le bon sens, mais le royaume de Dieu n'est pas le bon sens. Le royaume de Dieu est une voie inimaginable plus haut. Il faut marcher avec moi, faire confiance en moi. Pas faire les choses qui sont bon sens par le vœu. Des fois, il faut faire quelque chose et marcher avec moi. Ne quitte pas ce que les gens pensent. Suis-moi. Et combien de pêcheurs, combien d'hommes pêcheurs sont quittés les fers avec les poissons et marchés avec Jésus. Mais c'est le bon sens, certainement pas, de laisser son frère, son père, avec tous les filets, tous les poissons, et juste partir comme ça, ça, c'est pas le bon sens. On lutte contre un esprit, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les choses, notre intelligence, notre expérience aussi. On a beaucoup d'expérience, on a vécu beaucoup d'années avec le Seigneur. Mais est-ce que mon expérience remplace la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu? Est-ce que mon expérience peut être quelque chose contre un diable qui a tellement de puissance et intelligence, qui a vécu combien de millions d'années avant que j'étais né? Et lui, il comprend beaucoup plus que moi. Il peut m'écraser comme ça. Donc, est-ce que mon expérience va vraiment faire la différence avec lui? Ou est-ce que je vais marcher avec le Dieu soumis avec lui et de marcher avec les âmes qu'il donne? Quelles âmes? Pardon? Dans une situation, je pardonne quelqu'un ou je suis pardonné? Communication directe avec quelqu'un avec amour? D'essayer de parler avec douceur de quelqu'un? Écoute, c'est pas sage de faire ça. Un frère ou soeur, écoute, je sais que tu as des problèmes, est-ce que je peux prier pour vous? Ça, c'est des âmes que nous avons. Évangélisation, c'est une âme aussi. De prier pour les autorités, ça, c'est une âme aussi. De servir quelqu'un avec humilité et de ne pas chercher quelque chose pour soi, ça, c'est une âme aussi. Combien d'âmes que nous avons que le Seigneur donne qui peut être tellement efficace? Humilité. De montrer humilité, de ne pas chercher la gloire, de ne pas être quelqu'un ambitieux qui cherche les choses pour moi-même, d'être quelqu'un qui toujours a la parole peut-être. On fait la différence dans nos vies et c'est des âmes qui sont tellement puissantes. Parce que les gens ne respectent pas l'humilité, ni la douceur, ni l'amour, le vrai amour qui donne un sacrifice. Mais ça fait une telle différence dans ce monde quand nous avons des gens qui vivent comme ça, qui laissent tomber ses propres vies pour servir le Seigneur. Et en plus, ils ont une vie plus épanouie, plus satisfaisante, plus repos, parce qu'on n'est pas contrôlé par notre chair. Et donc, on n'est pas connecté avec ce monde, on n'est pas partie de ce monde. Et donc, on marche dans la puissance de Dieu. Et on fait une différence. Nos paroles, on parle différemment. Pierre, je sais que tu es un Galiléen parce que tu as marché avec Jésus, parce que quand tu parles, j'entends une différence dans ton accent. C'est la dame qui est en train de parler avec Pierre quand il va régner. Il va régner, nier Jésus trois fois. Ta voix, c'est un peu différent. Nos voix sont différentes parce que nous sommes différents. C'est là, les choses qui viennent du cœur. Et dernière chose, est-ce que j'ai un septième point? La confession, on a déjà brièvement dit ça. Notre confession est comme la confession de Jésus vers Pilate. Une belle confession en 1 Timothée chapitre 6, verset 13. Une confession premièrement devant Saül. Oui, David a dit, j'ai lutté contre les ours. Il est un ours, il est un lion. Et quand j'ai vu ces deux bêtes en train d'attaquer les brebis de mon père, j'ai pris et j'ai tué. Et c'est par la force et la protection de mon Dieu. Donc cet homme, Goliath, il est rien. Parce que j'ai déjà un défi devant moi et j'ai vécu vivant quand il y a quelque chose. Et cet épisode, probablement, il n'a jamais dit à son père. C'était probablement la première fois, peut-être, il a dit. Mais il a dit, écoute, si Dieu peut préparer pour me protéger contre ça et je peux protéger mes brebis, comment plus que Dieu peut faire maintenant avec les brebis d'Israël et cet homme dans la vallée en train de crier avec une voix forte. Et nous sommes dans ça, on peut confesser. Et si nos paroles ne sont pas vides, quand on dit « Mon Dieu est pour moi, j'ai un espoir pour l'avenir, j'ai un amour, ma vie a changé, mon Dieu a aidé dans tous les problèmes de ma vie, il était toujours avec moi, je suis un homme ou une femme changée, transformé, il m'a libéré de ma passé. J'ai une voix forte maintenant, j'ai une possibilité de parler avec amour. Tout s'est changé dans ma vie. Oui, ces moments sont difficiles et le défi devant moi est difficile, mais je sais que mon Dieu est pour moi, mon rédempteur vit. Et on peut dire cette chose à Saul, et après, devant Goliath en train de manquer, on peut dire que j'ai quelque chose pour toi de le Seigneur. Tu vas mourir, mais on va vivre et tu vas voir. Et en plus de ça, toute la terre va savoir qu'il est un Dieu d'Israël. Et les gens vont savoir que nous avons Dieu. On est un petit troupeau. On est peu de puissance en Apocalypse chapitre 3, versets 8, 9 et 10. Mais Dieu a préparé quelque chose pour nous. On fait une différence. Il nous garde et nous protège contre l'heure de tribulation qui va descendre sur la terre. Il parle de l'enlèvement, il parle de la tribulation, grande tribulation de 7 ans. Ici, nous sommes petits peut-être. On n'est pas une énorme église avec un auditorium et beaucoup de lumière. Peut-être des choses qui sont impressionnantes pour le monde. Mais nous sommes un petit peuple. Mais il faut savoir que, quelle est l'expression, les marmottes en proverbe sont un petit peuple. En anglais traduit rock badgers, c'est un petit animal qui cache dans les rochers. Les marmottes cachent dans les rochers hauts, ils sont un peuple faible. Mais ils sont puissants. Nous sommes comme eux. On est petits, mais nous sommes attachés d'un rocher haut. Nous sommes protégés par notre Dieu, comme David. Et donc, dans les batailles, on peut apprendre de lutter dans un bon combat. Parce qu'on connaît le terrain, on utilise les bonnes armes. Et nous avons un bon Dieu avec nous et notre confession est vraie. Que Dieu vous bénisse. Wow. Seigneur, merci pour cette parole et merci parce que tu es un Dieu qui est puissant. Et on va voir ta gloire, Seigneur. On va voir que l'ennemi, la voie va fermer un jour. Merci, Seigneur. Bénis la suite de notre soirée. Dans ton bon nom. Amen.